et bienvenue sur Amcamgram, le podcast qui met en lumière les métiers de l'account management. Je m'appelle Darina Senagi et pour cette saison 2, je vous propose de vous munir d'une pioche, d'une lampe frontale et de gros souliers parce qu'on va aller explorer des sujets de fond en lien avec l'account management. En parallèle des interviews individuelles, ce n'est donc pas un mais deux invités qui croiseront leur point de vue et leur méthode de travail. Vous êtes parés pour l'exploration? Alors c'est parti! Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau débat de Amcamgram. Aujourd'hui, on va parler d'un aspect stratégique du département Account Management, puisqu'on va aborder la question de la segmentation des comptes. On va ensuite se demander comment répartir ces comptes dans les différents portefeuilles des équipes AM. Pour la petite histoire, lorsque moi j'étais chez La Fourchette en 2014, donc ça date un peu, les comptes pour le coup n'étaient pas du tout segmentés. C'est-à-dire que je pouvais tout à fait prendre le téléphone pour parler avec un restaurateur de quartier, ensuite enchaîner avec un chef étoilé et ensuite dialoguer avec une trattoria branchée au cœur de Paris. Donc c'était un petit peu brouillon, mais finalement, au fur et à mesure que l'entreprise s'est structurée, notamment avec le rachat par TripAdvisor, La Fourchette a connu une segmentation pour le coup géographique puisqu'on était segmenté par arrondissement. Et ensuite, au fil de l'eau, on a segmenté les restaurants par potentiel de chiffre d'affaires pour pouvoir distinguer les comptes qui avaient besoin d'un suivi plus ou moins rapproché de la part de leur account manager. Du coup, comme le dit l'expression « faut-il diviser pour mieux régner » ou du moins « faut-il segmenter pour mieux gérer » et si oui, comment choisir le type de segmentation des comptes qui convient le mieux à l'entreprise? Et une fois qu'on a réussi à segmenter ces comptes, comment est-ce qu'on choisit de les répartir parmi les différents portefeuilles de l'équipe AM? Pour m'accompagner sur ce débat et répondre à ces trois questions, j'ai fait appel à deux femmes chevronnées et expertes dans leur domaine. À ma droite, Alexandra. Toi, Alexandra, tu travailles depuis plus de 2 ans et demi chez UpSlide, un logiciel qui permet aux professionnels de la finance de créer des documents en révolutionnant l'usage de Microsoft Office. Tu as un super parcours puisque tu es d'abord rentré en tant que BizDev, ensuite tu as évolué en tant que Account Manager avant de prendre le poste de Head of Account Manager, donc bravo. Et à ma gauche, Caroline, toi tu travailles depuis 1 an en tant que Key Account Manager chez Agorize, c'est la plateforme leader des challenges d'open innovation. Et avant ça, tu as passé environ 4 ans en tant que Key Account Manager dans une entreprise qui organise des événements internationaux B2B. Donc, merci mesdames d'être avec moi aujourd'hui. Je vous laisse vous présenter.
Eh bien, top. Merci Darina. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi et Caroline aujourd'hui. Donc, moi, je m'appelle Alexandra. J'ai 31 ans. Comme tu le disais, je suis responsable du pôle Account Management aujourd'hui chez UpSlide. Et j'anticipe ta petite question sur mon plat préféré et je vais direct dedans en tant que bon foodie dans les classiques et avec l'hiver et la cuisson à la cheminée qui se rapproche, ça va être une bonne côte de bœuf avec une petite poêlée de champignons et des pommes de terre grenaille.
Mmh. On est déjà au coin de la cheminée là, on sent le feu. Très bien. Et toi Caroline?
Donc moi, donc Caroline, j'ai 35 ans. Aujourd'hui, je suis Key Account Manager chez Agorize. Comme tu le précisais, c'est donc une entreprise qui vend des services liés au challenge d'open innovation. Moi, ça fait 10 ans que je suis commerciale sur des postes qui ont varié, qui ont évolué. J'ai commencé en tant que Business Development Manager et ensuite, j'ai évolué sur des postes qui étaient plus dans la gestion de la relation client. Et aujourd'hui, donc je suis Key Account Manager comme je dis chez Agorize. Mon plat préféré, moi c'est très classique, ça va être la pizza.
Bon bah le best-seller de Amcamgram, la pizza.
Pas très original.
Avec quoi dessus?
Alors, moi j'aime bien quand il y a beaucoup de fromage.
Bon, très bien. C'est bien, on est paré pour l'hiver, ça fait plaisir. Bon bah merci beaucoup de vous être présentés. Du coup, au cours des prochaines minutes, on va parler structuration, division, industrie, potentiel, expertise ou encore ambition. Alors, c'est parti. Alors, première question, est-ce que vous pourriez me parler l'une et l'autre de la segmentation des comptes dans vos entreprises respectives? Parce que ce que j'aimerais bien savoir pour commencer, c'est comprendre s'il est impératif, à un moment ou à un autre de la vie de l'entreprise, de segmenter ses clients Et si oui, quel est le meilleur moment pour le faire?
Alors, je vais commencer par te donner l'expérience chez Upslide. Donc nous, on a choisi pour commencer de segmenter nos comptes selon ce qu'on appelle l'ARR. Donc c'est l'annual recurring revenue parce qu'on est sur un système d'abonnement. Il y en a qui pourraient le faire par chiffre d'affaires. Globalement, c'est bien sûr le revenu que tu reçois de ton client. Pourquoi on a fait ça? Parce que au début, dans une boîte qui est de taille petite voire moyenne, déjà c'était assez simple. Ça nous permet d'assurer un renouvellement fluide et en fait, tout l'intérêt c'était de se rapprocher des besoins de chacun de nos clients et vraiment de s'adapter à leur profil. Donc, ce qu'on a pu voir nous, c'est qu'en fait, en fonction de la taille d'un compte, donc quand je dis taille, c'est comme je te disais du revenu reçu, on va avoir des attentes et des besoins différents. Mais aussi, on va avoir des cycles de vente qui sont plus ou moins longs, ou bien même des budgets attribués et donc des interlocuteurs qui vont être différents. Donc, ce qu'on a choisi de faire, et c'est là que pour moi c'est impératif, c'est de pouvoir mettre en face de ces interlocuteurs et de ces comptes avec des besoins différents des sales avec des expériences et des profils qui sont adaptés. Donc, en fait, chez nous, le point de départ, ça a été de se dire, on commence à segmenter à partir du moment où on a des profils qui sont divers, à la fois chez les clients et à la fois chez les sales, pour que ça puisse matcher. Et c'est à ce moment-là aussi, bien sûr, que ça devient indispensable pour nous de segmenter parce que on va pouvoir s'adapter, parler la langue du client et répondre à ses besoins. Après, on segmente pas que par le chiffre d'affaires, on a aussi des sous-critères, bien sûr, notamment de potentiel du compte ou bien de risque de résiliation et même de besoin d'accompagnement. Donc ça va faire qu'on va avoir d'abord des comptes segmentés par le revenu et ensuite par, on va dire, le temps que ça va prendre pour un sales en fonction des besoins d'accompagnement ou non du client. Il y en a qui sont beaucoup plus indépendants que d'autres. Voilà, donc pour moi, il est nécessaire de segmenter dans ce sens-là. C'est vrai qu'en général, la nécessité, elle se fait beaucoup à partir du moment où l'entreprise grossit et qu'elle voit qu'il va falloir adapter les réponses des sales en fonction de la taille des clients parce que les profils des clients varient. Et forcément, en interne, ça veut dire adapter le training des sales, leur montée en compétences en fonction de la taille et des besoins des comptes.
Moi, de mon côté, je rejoins tout à fait ce que tu disais sur la nécessité de segmenter. Moi, de mon expérience, la segmentation, elle était un petit peu différente. Dans l'entreprise, dans l'événementiel dans laquelle je travaillais avant, c'était une grosse PME. Il y avait plus de 300 salariés et je pense qu'il y avait au total plus d'une cinquantaine de commerciaux. Donc, c'était essentiel de segmenter. Donc, il y avait déjà une grande segmentation au niveau de l'entreprise, au niveau des marchés qui étaient adressés. Il y avait une division immobilier et une division entertainment qui correspondaient donc au salon qui était commercialisé. Et ensuite, au sein de ces deux BU, il y avait à nouveau une segmentation entre les commerciaux, qui était là une segmentation qui était géographique et par segment. Et où d'ailleurs. Et ça permettait aux commerciaux d'avoir un périmètre d'expertise qui était relativement large hein, par secteur. Du coup, les commerciaux étaient aussi embauchés parce qu'ils avaient une langue supplémentaire. Donc, par exemple, la personne qui s'occupait de l'Europe du Sud parlait espagnol et italien en plus du français et de l'anglais. Donc, ça permettait d'avoir des interlocuteurs qui étaient dédiés sur les bons territoires. Et ça, c'était vraiment essentiel. Donc, dans le cadre de cette entreprise-là, qui était relativement importante, la segmentation, elle était vraiment indispensable. Et quand je suis arrivée chez Agorize, il n'y avait pas de segmentation à proprement parler. Chaque CAM avait constitué au fil de l'eau un portefeuille de clients, qui était entre guillemets chasse gardée, mais il n'y avait pas vraiment de segmentation. Et quand je suis arrivée, c'était aussi une époque où l'équipe commerciale a grossi, donc il a fallu un moment que la direction commerciale clarifie un petit peu les portefeuilles de chacun. Donc il y a eu à ce moment-là une sorte de redistribution des comptes. qui a été faite de façon assez intelligente parce qu'ils se sont basés sur l'historique de chaque CAM et aussi en fonction du potentiel des entreprises que nous on vise aujourd'hui, parce que il y a qu'un certain type d'entreprise qui peut s'intéresser à notre solution. Donc moi j'ai trouvé ça assez rassurant que avec l'augmentation du nombre de sales dans l'équipe, eh ben il y a en fait une prise de conscience comme quoi il fallait absolument commencer à segmenter le portefeuille de nos clients. Et je pense que à terme cette segmentation elle devrait être plus fine pour que ce soit plus efficace. Et c'est là où je rejoins Alexandra dans ce que tu disais aussi sur l'expertise et la montée en compétences des personnes dans l'équipe.
Là, j'ai bien noté qu'au fur et à mesure que l'entreprise va grossir, que vous allez mieux connaître vos clients aussi, vous allez pouvoir affiner la segmentation des comptes. Donc là, on est sûr que la réponse « faut-il segmenter les comptes ?» c'est un grand oui. Maintenant, vous m'avez parlé l'une et l'autre de différents types de segmentation. Toi, Alexandra, tu as parlé notamment de l'ARR et aussi peut-être du temps à consacrer à chaque compte. Caroline, toi, tu nous as parlé de la segmentation par division et aujourd'hui, une segmentation par, on va dire, historique de signature par les CAM. J'aimerais savoir, si on essaye de prendre un peu de recul, déjà, qui décide du type de segmentation et comment est-ce que vous en êtes arrivé à ces types-là finalement?
Alors ça c'est une bonne question et je pense que ça va varier d'une entreprise à l'autre. Dans mon ancienne entreprise, c'était la direction commerciale avec elle-même son N+1 qui gérait ça et il n'y avait pas vraiment de concertation parce qu'on était trop nombreux je pense pour pouvoir aller voir les uns et les autres et puis accéder aux desiderata et essayer de satisfaire tout le monde. Je pense que c'était une équation relativement complexe, alors que chez Agorize, la personne qui s'est occupée de redispatcher les comptes, c'était la personne qui était en charge de la sales efficiency, sales excellence. Et il y a eu une vraie concertation avec une première proposition qui a été faite au CAM et il y a eu des retours qui ont été faits par chacun. Donc j'ai trouvé que c'était assez intelligent la façon dont ça a été fait parce que ça n'a pas été imposé et on a été dans le consensus. Au final, je pense que tout le monde était plus ou moins content du portefeuille de clients qui s'est récupéré.
Parce que si je peux me permettre, comme tu disais que chaque CAM à la base gardait ses propres clients, potentiellement tu voyais les bons et les mauvais, non?
Aussi. Et c'est vrai qu'il fallait faire attention à ce que certains CAM qui avaient closé il y a quelques années, un compte qui n'avait pas re-signé, faire attention à non plus à ce qu'ils ne préemptent pas en fait ce compte-là. Donc je pense que c'est pas un exercice qui est facile, la segmentation, parce que il faut vraiment que tout le monde soit relativement content de ce qu'il a dans son portefeuille et que se sente pas lésé. Faut pas que ça crée des petites frustrations. Et après chez Agorize, la segmentation elle est faite en bonne intelligence avec l'équipe parce que c'est une segmentation qui est relativement simple étant donné que nous on s'adresse à des entreprises qui ont un CA suffisamment important pour pouvoir dégager un budget pour l'open innovation, pour le challenge d'open innovation. Donc notre marché il n'est pas forcément limité, mais il est relativement niche. Du coup, on n'a pas besoin de resegmenter ensuite par industrie ou par territoire, d'autant plus qu'on a des bureaux à l'international, on a des bureaux en Asie et en Amérique, ce qui fait que ces entreprises, enfin ces entités-là vont gérer les demandes en local. Et la prochaine étape pour Agorize, ça va être d'organiser, et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui, une gestion des grands comptes à l'international, parce qu'on travaille par exemple avec Microsoft au Canada, et on travaille avec Microsoft de Singapour. Donc, il faut qu'on arrive aujourd'hui à coordonner nos efforts encore plus pour gérer ces comptes de façon globale. Donc, ça, c'est une vraie réflexion qui est menée actuellement.
Super. au final, je vais dans le sens de Caroline aussi. On va beaucoup dans le sens d'une de l'autre, donc tant mieux, on a des bonnes pratiques à partager. L'aspect international chez Upslide, il est traité assez facilement aussi, parce qu'en fait, on a des bureaux qui vont être dans d'autres régions géographiques. Et donc, pour le coup, nous, on va d'abord regarder le siège social de l'entreprise, et l'entreprise cliente est l'affecter au bureau correspondant. Donc, une entreprise qui est, par exemple, située au Canada va dépendre du bureau de New York. Ensuite, on segmente, comme j'ai dit tout à l'heure, par le revenu au sein de chaque entité géographique. Et chez nous, ça va être plus les aides ad of AM et sales ensemble qui vont décider de la segmentation des comptes. Et là où je rejoins Caroline, c'est qu'on va le faire en lien avec l'équipe. C'est-à-dire qu'on va proposer une segmentation qui va être revue dans plusieurs sens. Certains vont avoir des appétences pour un secteur plus que l'autre, et malgré qu'on ne différencie pas les secteurs, on peut avoir un feeling, et dans ces cas-là, ça va aider à la segmentation. Et aussi par rapport à l'historique, si on resegmente des comptes en cours d'année, eh bien, il y a des sales qui auront déjà travaillé dessus, et bien sûr, on s'assure qu'ils gardent leurs comptes pour assurer une continuité et aussi de la cohérence face aux clients. On peut aussi avoir le cas contraire, où on a un sales qui a eu des difficultés, qui a besoin de un petit peu se rafraîchir et qui du coup va pouvoir redonner son compte lors d'une passation. Donc globalement, je pense que le message clé, c'est le même que Caroline, dans le sens où tout du moins sur qui décide de la segmentation, c'est les head-off, mais il faut vraiment intégrer l'équipe sales, parce que c'est eux qui vont ensuite, bah, bien sûr, faire tout le travail. Donc autant faire en sorte que ce soit une équipe qui soit embarquée et motivée dès le début. Et sur l'aspect comment, si je vais un petit peu du cas général au cas particulier, c'est vrai qu'en général, on voit dans l'industrie des segmentations qui sont faites sur différents critères. Et là, c'est exactement ce que disait Caroline, ça va dépendre du contexte et de l'entreprise, mais on a plusieurs façons de le faire. Soit on le fait par revenu, soit on le fait par zone géographique, soit on combine les deux, soit même par secteur d'activité. Donc là, par exemple, on va avoir l'immobilier, le télécom, l'agro, etc. Donc en fait, tout ça, c'est une question de spécialisation. Il y a des grands piliers pour segmenter qui sont en général utilisés. C'est vrai que souvent, quand l'entreprise est plus grosse, on va segmenter par industrie. Mais dans une plus petite entreprise, ça va se faire aussi pas mal par le chiffre d'affaires. C'est vraiment lié au contexte de l'entreprise, son activité, ce qui est le plus pertinent pour elle. C'est vrai que c'est difficile pour une entreprise au début de segmenter, on ne sait pas trop comment faire. Et les critères, et l'idée, c'est d'y aller aussi en mode agile et de commencer, puis de réitérer si ça ne fonctionne pas très bien au fil de l'année et des semestres, pour trouver la bonne segmentation qui correspond à son marché et sa manière de fonctionner. Voilà, une segmentation, ça se travaille, on n'y arrive pas toujours dès le début, mais on sait, comme on l'a dit au tout début d'Arina, on sait que c'est important, et du coup il faut s'adapter pour bien la trouver.
Je suis complètement en ligne avec Alexandra. Et d'ailleurs, pour compléter ce point-là, je pense qu'une entreprise qui n'a pas de segmentation, soit elle a beaucoup de chance parce qu'elle est sur un marché qui est extrêmement niche, et du coup, bon, bah, effectivement, la segmentation est naturelle. Mais les entreprises qui n'ont pas de segmentation, à un moment, le problème va se poser, parce que ça va créer un petit, à mon avis, un manque d'efficacité de leur stratégie commerciale. Se poser la question de la segmentation, c'est aussi se poser la question de qui est mon audience, qui sont mes cibles et comment je peux mieux les atteindre. Donc, je vais segmenter mon marché et en ayant ça en tête, ça va me permettre de décliner aussi des arguments pour chaque cible, parce que peut-être que mon outil, il va avoir différents arguments pour ces différents interlocuteurs. Donc à un moment, je pense que l'entreprise, sauf l'entreprise qui est très très chanceuse, elle doit se poser la question de sa segmentation en lien avec sa stratégie commerciale.
Et c'est quoi les avantages et les inconvénients de segmenter comme vous l'avez énoncé? Parce que là, j'ai bien compris ce que vous avez dit sur la partie structuration, organisation. Maintenant, tout à l'heure, Alexandra, tu as parlé du contexte et je trouve qu'effectivement, c'est clé parce que tu vois, par exemple, nous, chez Welcome to the Jungle, on s'était posé la question de segmenter les comptes par industrie, un peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais par exemple, moi, typiquement, je me suis dit, bon, bah, j'aimerais bien m'occuper des acteurs de la food tech parce que c'est le secteur que je préfère. Sauf que heureusement qu'on n'a pas fait ça comme ça, parce qu'aujourd'hui, regardez avec la situation actuelle, le Covid et tout ça, je pense qu'il n'y a aucun account manager qui aimerait être focus sur les verticales hôtellerie-restauration ou encore événementiel. Donc l'agilité, elle est très claire là-dedans. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas que des avantages.
Oui, bah c'est sûr que là, ce n'est pas la meilleure période pour s'occuper de l'hôtellerie-restauration. Après, faut prendre les clients un petit peu avec leurs avantages et leurs inconvénients. Et c'est vraiment tout la clé d'un bon sales aussi, de pouvoir s'occuper de son client de la bonne façon et continuer à le fidéliser et à l'aider, qu'il soit dans une bonne ou une mauvaise situation. S'adapter à ses clients et à son marché, c'est vraiment la clé. Après, je pense aussi qu'il faut être flexible, c'est-à-dire que pour une entreprise, il faut envisager la possibilité de resegmenter en cours d'année ses comptes en fonction des besoins d'accompagnement du client. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, un secteur qui est un petit peu plus à plat, qui est l'hôtellerie-restauration, va avoir moins besoin d'accompagnement. Et donc, il faut pouvoir peut-être mettre un petit peu plus de ressources commerciales ailleurs. Après, il faut faire ça à partir du moment où on a, entre guillemets, pris en compte le contexte et où on s'assure quand même qu'on continue d'accompagner les clients, même si leur activité a beaucoup diminué avec... peut-être des nouvelles façons de faire ou au moins se tenir au courant, eux, de leur progression dans le contexte actuel et de leur réinvention pour certains. Donc, du coup, je pense que la question clé, c'est vraiment de s'adapter à... de pas rester figé sur un modèle, être flexible, agile et continuer à faire en sorte que ça marche par le changement. Et tu parlais d'avantages et d'inconvénients. Il y a quand même un gros avantage à la segmentation qui va être... de se rapprocher de ses clients. En fait, plus tu vas avoir un secteur dédié, plus tu vas connaître ton client, te plonger dans son univers, savoir comment il parle. Moi, j'ai des clients qui sont dans différents secteurs de la finance. C'est pas du tout la même chose de parler à une banque privée, par exemple, que à quelqu'un qui va faire du M&A. Ils produisent des documents qui sont différents, ils ont des façons de parler, du vocabulaire qui est absolument différent. Et si moi, je veux pouvoir les comprendre, parler leur langage, leur vocabulaire, il faut que j'y passe du temps. Et donc, du coup, à la fois, je vais être plus pertinente envers mes clients quand je les connais bien. Et moi, je vais pouvoir avoir une meilleure connaissance et à terme des opportunités d'upsell. Donc, ça, c'est le premier avantage de segmenter. Le deuxième, c'est que tu spécialises et puis ça te laisse quand même la flexibilité, comme on disait tout à l'heure, de donner un bol d'air frais aux sales qui en a besoin, peut-être après plusieurs années passées sur un segment, de pouvoir changer et tout en restant dans la même entreprise, et avoir l'impression de faire un nouveau travail parce qu'il va avoir un type de clientèle différent. Donc, je boucle la boucle là-dessus pour dire que cette flexibilité à aller d'un segment à l'autre pour un sales au fil des années et puis de resegmenter pour s'adapter à la situation économique et aux besoins de ses équipes, c'est clé pour moi.
Tout à fait d'accord avec Alexandra une fois de plus, sur le fait que plus tu segmentes, plus tu as des experts dans ton équipe et plus eux peuvent se faire un réseau. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on a tous besoin d'un réseau et ils vont gagner en crédibilité, les commerciaux, les CAM, en étant plongés à 100% dans un secteur unique, et pour eux ce sera vraiment bénéfique. A contrario, quand on est sur un segment unique, on peut peut-être s'ennuyer un petit peu plus vite que si on était sur un portefeuille plus varié. Donc moi, je sais que je suis quelqu'un qui j'ai besoin de renouveler assez vite mes activités. Le concept de routine, c'est pas trop pour moi. Donc avoir un portefeuille plus restreint et un petit peu mono-sujet, je sais que moi, assez vite, ça va être quelque chose duquel je vais avoir envie de sortir. Mais ça va vraiment dépendre des personnalités. Et un bon directeur commercial doit sentir quel est le degré de confort de ces commerciaux avec le fait d'être sur un segment plus ou moins ouvert ou fermé. Un autre point qui, à mon avis, est primordial dans la segmentation, c'est le fait que ça va permettre d'avoir une meilleure ambiance parmi les commerciaux. Pour l'avoir vécu, et je pense que j'espère que je ne revivrai pas, mais j'ai déjà vécu des tensions entre CAM, entre commerciaux, parce que la segmentation, elle était un petit peu trop floue. Et du coup, bon, on se retrouvait à être deux commerciaux sur le même client, et c'est pas très agréable. Personne n'a envie d'être dans ce genre de situation. Donc, avoir une segmentation qui est vraiment claire, ça permet de garder vraiment de bonnes relations entre les CAM.
Ça, c'est super important, Caroline, et je pense que merci de l'avoir soulevé parce qu'il n'y a rien de pire que de se marcher un peu sur les plates-bandes entre commerciaux. Ça dégrade à la fois la relation dans une équipe, mais aussi la crédibilité face à un client qui ne comprend pas vraiment à qui il doit parler. Et donc, encore une fois, ça crée avantage de la segmentation, d'avoir des account owners qui sont très clairs, qui peuvent changer, bien sûr, mais une fois qu'il y en a un qui est sur un compte, il est vraiment dessus et personne d'autre, et ça permet d'asseoir plus de relations fluides.
Et ça peut même être, je pense, une richesse, parce que si les CAM se parlent entre eux, ce que j'espère, toi, en ce moment, dans le secteur, si je reprends l'hôtellerie-restauration, ça ne va pas fort, sache que dans un autre secteur, ils ont tenté de se réinventer de telle façon, donc peut-être qu'on pourrait appliquer ces bonnes pratiques à un secteur qui va moins bien pour l'aider aussi à se réinventer. Ça peut être hyper intéressant de créer comme ça des vases communicants entre différentes expertises.
Oui, je pense que tu valorises davantage les succès quand tu es sûr qu'on ne va pas te, on va pas entre guillemets te copier, t'es pas dans la rétention d'informations et ça te fait plaisir justement de partager tes business case, tes success stories. A contrario, si tu sais que y a plusieurs personnes qui vont pouvoir s'en servir pour aller peut-être contacter les piocher dans ton portefeuille, clairement tu n'auras pas envie de le faire. Donc c'est un très bon point, Darina.
Donc là, j'ai bien noté en fait comment faire pour choisir le type de segmentation des comptes et pourquoi est-ce que c'est important de proposer différentes expertises aux personnes de l'équipe. Maintenant, si j'essaye un petit peu de relier les deux, quel portefeuille pour quel account manager? Enfin, comment est-ce que vous allez attribuer finalement les portefeuilles? Est-ce que ça va être en fonction des aspirations de chacun ou est-ce que ça reste de la signature naturelle et du nurturing après, comme tu disais, Caroline? Et qu'est-ce que vous préconisez finalement? Parce que ne pas s'ennuyer, c'est une chose, mais il faut quand même avoir des bons atomes crochus avec le secteur dont on s'occupe.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est le doux équilibre entre faire quelque chose qui va être un petit peu processisé et facile et intégrer du cas par cas. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de recette miracle. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est en fait de prendre en compte l'ancienneté du sales, ce qui va être le premier critère, comme j'expliquais au début, c'est-à-dire que en fonction de la connaissance du sales et du temps passé dans l'entreprise, plus il est senior, plus il va gérer des comptes avec un revenu élevé, parce que c'est aussi des process plus longs et il faut pouvoir s'adapter. Après, il y a vraiment du cas par cas, qui se fait aussi par-dessus, c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qu'on a recruté qui vient de cette industrie, bien sûr, on va lui donner des comptes dans l'industrie dans laquelle il vient parce qu'il va être encore plus pertinent et il parle déjà la langue du client. Donc, je pense qu'il faut avoir des critères de base que tu modifies et encore une fois, j'en reviens à la notion de flexibilité qui est importante en fonction des aspirations et des parcours antérieurs de chacun. Et puis, pour éviter l'ennui aussi, je sais que nous, par exemple, on fait en sorte que le sales va couvrir tout le cycle de vente. C'est-à-dire que nos sales, ils sont répartis par taille de compte. Et en revanche, au sein de chacune des tailles, ils vont faire à la fois de la prospection, de la négo, de la M. Donc pas d'ennui, on a des multiples casquettes. Et on gère son temps, son autonomie en fonction des priorités des clients.
Ah oui, ils font les deux alors, ils font à la fois chasse et aussi la fidélisation.
Oui, Tout à fait. Donc là, encore une fois, ça dépend vraiment des entreprises. Je sais qu'il y en a beaucoup qui décide de faire de la prospection, du biz dev et de l'AM. Nous, on avait ça avant et ça marchait plus. Donc, ça marchait plus, ça marchait moins bien, on va dire. On a décidé de changer et de faire en sorte d'avoir des triples casquettes, mais pour des comptes différents.
C'est intéressant. Tout ce que tu dis, Alexandra, je ne vais pas le répéter, je suis vraiment en ligne avec ça. Il y a aussi quelque chose qui est vraiment à prendre en compte, c'est d'être à l'écoute de ces équipes et de sentir en fait ce vers quoi ils ont envie d'aller. Parce qu'un CAM qui sera un petit peu démotivé au bout de 2-3 ans sur un même segment, on peut tout à fait lui proposer un autre segment, donc un autre territoire géographique où il va pouvoir aussi découvrir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres façons de commercialiser l'offre. Et ça déjà, ça va lui donner un nouveau souffle qui pourra peut-être le faire attendre avant d'être promu sur un autre poste. Donc la segmentation, ça peut aussi venir en tant que quelque part appui pour les RH, pour manager les je vais faire de l'anglicisme, mais pour manager les expectations des uns et des autres. Donc on ne peut pas toujours répondre aux demandes de promotion qui sont souvent nombreuses. Après 1 an, 2 ans, ben, souvent les bons éléments et les autres aussi d'ailleurs demandent à être promus. Et ben, le fait de changer, d'avoir cette flexibilité de proposer un changement de segmentation sans que ce soit un vrai changement de poste, ça peut faire une solution alternative qui va permettre de garder ces bons éléments, de les garder sous le coude en attendant une prochaine réelle évolution.
Carrément. Hyper intéressant tout ça. Merci beaucoup à toutes les deux. C'est vrai que le sujet de la segmentation est un peu infini parce que là, on a parlé beaucoup de la segmentation des comptes et de leur répartition au sein des équipes. Mais on pourrait tout à fait aussi aborder le sujet de la segmentation au sein même des équipes account management, comme par exemple le fait de se spécialiser sur non pas une verticale client, mais une verticale plus métier ou mission, type onboarding ou des account managers spécialisés sur l'upsell ou encore sur de la rétention client, etc. Donc ça c'est encore un autre sujet. J'avais aussi un autre sujet en tête, puisque vous avez parlé tout à l'heure d'expertise métier à partir peut-être soit de l'expérience antérieure, soit d'une aspiration d'une personne pour un secteur en particulier. Moi, j'aimerais bien savoir si l'account manager doit être spécialiste d'un secteur pour mieux l'aborder. Ou est-ce que justement le fait d'avoir un regard neuf, ça peut aussi l'aider à se dépasser et aller sur des terrains encore inconnus, sans barrières. Donc voilà, ça c'est un autre débat que j'aimerais bien mettre en place sur AmCamGram. Mais pour l'heure, je vous dis un énorme merci à toutes les deux, Alexandra et Caroline. Et mention spéciale pour chacune. Alexandra, je te souhaite une très bonne continuation à Bordeaux, une superbe ville. J'espère que tu vas t'y plaire. Et Caroline, un heureux événement.
Merci beaucoup, Darina.
Merci, Darina.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir. Flip it, hit it, split it, quit it, get up, miss it. Hold on. Get it, flip it, hit it, split it, quit it, get up, miss it. Let's go. Hit it, split it, drill it, come up, miss it. Hit it, split it, quit it. Oh, let's go. Get it, flip it, hit it, split it, quit it, get up, miss it. Get it, flip it, hit it, split it, quit it, get up, miss it.